Je vous invite à tourner dans les pages de votre Bible ou dans les pages de votre smartphone, dans l'Épître aux Romains, chapitre 12. Et puis j'aurai besoin d'un lecteur ou d'une lectrice ce matin également pour lire des passages de l'Évangile de Matthieu au chapitre 5. Donc, je ne sais pas si quelqu'un aime bien la lecture, faire la lecture publique, mais ce serait l'occasion de le faire. Donc pendant que vous cherchez dans vos Bibles l'Épître aux Romains, chapitre 12, il y a des questions que se posent les hommes. Qui suis-je, d'où je viens, où je vais? C'est des célèbres questions métaphysiques. Et les réponses qu'on donne, ben, ça dépend de la culture dans laquelle on est né. Ça dépend de l'éducation qu'on a reçue. Et ça dépend de notre personnalité propre. Et ça dépend aussi de savoir si nous avons été ou non, si nous avons ou non entendu le message de l'Évangile. Si on est russe, si on est chinois, si on est un Américain ou un Français, ces réponses peuvent être différentes. Quelle est la vision chrétienne du monde? Elle a l'avantage de nous donner des réponses très précises et très pertinentes à ces questions essentielles, ces questions métaphysiques. Le christianisme a pour point de départ un événement qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est la résurrection d'un homme d'entre les morts, un homme qui s'est relevé de la mort et qui a en quelque sorte bravé ou vaincu notre plus grand ennemi, celui qui nous attend tous, la mort, celui qui sévit depuis que l'humanité existe, la mort. La mort a été vaincue il y a 2000 ans de cela. Cet homme était juif. Il était membre du peuple de Dieu, du peuple élu qui avait la révélation du Dieu trois fois saint. Du Dieu qui est créateur de toutes choses, qui est au-dessus de toutes choses, qui est le Tout-Puissant. Son extraordinaire résurrection, il est revenu à la vie pour ne plus jamais mourir. Son extraordinaire résurrection valide la véracité de tous les textes saints qu'ont reçu le peuple juif. Ça valide la condition humaine qui est exposé là, et le besoin que nous avons tous d'être sauvés. La naissance, la vie, la mort, la résurrection de cet homme que l'on appelle en français Jésus, le désigne comme étant le Messie décrit dans les textes saints, le sauveur du monde, le grand roi de l'univers. Cette résurrection valide également tout l'enseignement qu'il a donné, tout ce qu'il a expliqué, tout ce qu'il a exposé à ceux qui l'entouraient, les témoins, les apôtres qu'il avait choisis pour recueillir son enseignement. Il a promis qu'il revenait chercher tous ceux qui croiraient en lui. On l'a évoqué tout à l'heure dans nos prières. Il reviendra aussi pour juger le monde. Tous ceux qui croient en lui, les juifs comme les non-juifs, reçoivent le pardon de leurs fautes, le pardon de leurs péchés. Ils reçoivent l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, comme un gage d'une nouvelle identité. Ils sont devenus enfants de Dieu et ils sont intégrés dans la famille de Jésus, qui s'appelle l'Église. Et là, ils ont la mission d'annoncer en famille cette bonne nouvelle dans le monde entier. Cette bonne nouvelle de la venue du Sauveur, de sa mort expiatoire, de sa résurrection en gloire, est diversement reçue, nous le savons, et parfois ce message de l'Évangile est très mal reçu. Alors une question qui se pose, comment vivre un chrétien dans un monde hostile à l'Évangile, dans un monde rempli de personnes qui ne croient pas en Jésus? Et donc le texte du jour, je vais le lire, Épître aux Romains, chapitre 12, versets 14 à 21. Romains, chapitre 12, versets 14 à 21. On a un petit chevauchement avec le texte qu'on avait eu la semaine d'avant. On va remonter au chapitre 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donne à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Jusqu'ici, donc, et nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre 12. Le titre, donc, du message de ce matin, être agréable à Dieu dans un monde hostile à l'Évangile. Je voudrais revenir en arrière sur les messages précédent pour lire avoir bien le contexte de ces quelques versets. Et donc je vais lire dans la traduction Parole Vivante, qui a l'avantage d'être un petit peu plus explique bien les choses. Donc je vais lire Romains chapitre 12. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces, toutes vos facultés soient mises à disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Et le titre du message alors était une offrande agréable à Dieu. Verset 2. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne vous conformez pas vos vies aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modèles, les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Des choix de vie agréables à Dieu. Verset 3. Dieu m'a fait grâce, écrit Paul. Il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités N'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Vous savez que tous nos membres et organes constituent un corps unique. Pourtant, tous, nous n'avons pas la même fonction. De même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps. Individuellement, chacun de nous, pour être complet, nous sommes mutuellement interdépendants. En effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Et pourtant, nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés, que ses paroles découlent de sa communion avec Dieu, qu'elles restent conformes à la règle d'autrefois. Un autre a le don d'exercer des activités pratiques. Il poursuit ainsi la liste. Je vais avancer au chapitre 9. Ce message-là s'intitulait « Bon pour le service de Dieu ». Verset 9, c'était la semaine dernière. L'amour ne supporte pas les masques, que le vôtre soit donc authentique et sans affectation. Aimez en toute sincérité, haïssez le mal, ayez-le en horreur, détournez-vous-en. Laissez-vous attirer par le bien, attachez-vous-y fortement. Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères, d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez toujours plus haut au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Placez toujours l'autre au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. Ne devenez pas nonchalant dans votre travail. Faites-le avec énergie et zèle. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Servez le Seigneur. Que votre joie découle de votre espérance. Si l'affliction survient, portez avec patience les fardeaux qui vous sont imposés. Exercez-vous à maintenir votre esprit dans une attitude de prière constante. Priez avec régularité et persévérance. Considérez-vous comme solidaire des chrétiens dans le besoin. Soutenez-les de vos dons. Prenez l'habitude d'être hospitalier. Exercez vos dons d'hôtes avec empressement et bonne grâce. Et donc le titre était « Des relations fraternelles agréables à Dieu ». Ces dernières recommandations de Paul, depuis le verset 9, sont bien introduites par ces premiers versets, que l'amour soit sans hypocrisie, dans l'Église tout en particulier. Le texte qui suit est celui qui va nous intéresser et qui concerne les relations avec les personnes qui ne sont pas chrétiennes. Et elles le sont bien particulièrement encadré par la deuxième partie de ce verset 9. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, scotchez-vous au bien, collez-vous à lui. Je vais maintenant balayer ces versets, du verset 14 au verset 21. Être agréable à Dieu dans l'hostilité. Verset 14. Alors, je ne sais pas si je peux avoir un lecteur pour l'Épître aux Romains, chapitre 5. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire les lectures? Oui. Romains 5, donc il faudra mettre le doigt dedans. Gardez le doigt dedans. On va avoir quelques lectures. Verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Et donc on reconnaît bien là l'enseignement de Jésus en Matthieu chapitre 5, donc 43, 48, si tu veux bien lire, Patrick.
Matthieu 5 ou Romains 5 ?
Matthieu 5, 5, 43 à 48.
Matthieu 5, 43, 48. Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait.
Alors quand on pense à la persécution, bien sûr, on pense à toutes ces personnes qui sont le sujet de rejet, de menaces, parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils veulent suivre Jésus, d'emprisonnement parfois, de sévices corporels. Et c'est le cas dans de nombreux pays. On a eu l'occasion de s'en souvenir encore la semaine dernière. Mais de façon plus simple et plus basique, le mot « persécuter » veut dire le mot « poursuivre ». Courir après. Et donc chez nous, cela peut prendre la forme d'un harcèlement, de discrimination ou de mise à l'écart, d'un isolement social, de moquerie. Et quelle est notre réaction quand cela se produit? Je crois que ça dépend un petit peu de la façon dans laquelle nous sommes à ce moment-là. Si l'on est en position de force, si l'on se sent à plusieurs, peut-être on va avoir tendance à réagir, à riposter. Mais le Saint-Esprit nous dit de ne pas le faire. Ne maudissez pas, mais de bénir, au contraire. Et si l'on est en position de faiblesse à ce moment-là, on va avoir peut-être tendance à se taire, à rentrer dans notre coquille, à cacher nos convictions autant se peut. Le Saint-Esprit dit, ne maudissez pas, mais bénissez, faites du bien à ce moment-là. Quelle attitude adopter? Paul a été persécuteur et il a été ensuite persécuté. Il connaît les deux côtés de les deux côtés de la chose. Il a été en position de persécuteur du temps d'Étienne et il a été ensuite persécuté. Il a souffert pour le nom de Jésus. Il connaît bien le sujet et on peut lui faire confiance. Jésus a tenu ferme par rapport aux pressions des religieux de l'époque, par rapport aux militaires, par rapport aux puissants. Il n'a pas cherché le compromis. Et il nous a laissé, à nous qui le suivons, de belles promesses. Matthieu chapitre 5, versets 11 à 12. Donc, si tu peux nous lire, Patrick.
Matthieu 5, 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.
Oui, et quand les choses tournent vraiment mal, le Seigneur a eu encore des paroles plus encourageantes en Matthieu chapitre 10, versets 19 à 39. On ne va pas les lire, mais vous pouvez les retrouver. Et également, le souvenir que pour les chrétiens, l'histoire se termine très bien, comme c'est exprimé en Romains chapitre 8. Et vous pouvez retrouver ces passages, Matthieu 10 et Romains 8. Passons au verset d'après. Le verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Nous ne sommes pas appelés à sortir de la société, à vivre en ermite, à nous mettre à part, à vivre dans notre coin, replié sur notre bonheur. Non, au contraire, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous ne devez pas vous placer sous un boisseau, vous êtes le sel de la terre. vous devez être mélangé à elle. Et il l'a envoyé, ses disciples et ses apôtres, dans le monde. Est-ce qu'il s'agit de se joindre au moqueur? Est-ce qu'il s'agit de se joindre à ceux qui respirent les gaz hilarants, ceux qui boivent de l'alcool dans les maisons de joie? Je ne pense pas que c'est cette joie-là à laquelle on doit se joindre. Il s'agit plutôt, je pense, des sujets communs à l'humanité, la joie des naissances dans les familles, la joie des mariages, la joie des réussites quand on réussit, quand on a son permis de conduire, son baccalauréat ou toute autre épreuve ou tout autre examen ou promotion qu'on a et qui nous rende, qui nous donne du bonheur. Mais aussi ce qui est dans le bien commun à nous tous, la maladie, le deuil, des problèmes, des catastrophes, des tuiles qui peuvent arriver, qui arrivent si souvent dans nos vies. Nous devons être là comme des représentants de Dieu auprès de nos concitoyens, car Dieu s'intéresse à chacun d'eux. Dieu s'intéresse à chacun d'eux au point d'avoir envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, dans l'humanité pour nous, pour eux. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Job 36, 5. Vous trouverez également sur la façon dont Paul s'exprimait quand il avait un public qui était étranger, à la fois chrétienne. Vous avez acte 14, 17, acte 17, 27, vous pourrez aller voir cela. Maintenant, je crois qu'il faut être attention à être authentique, ne pas porter de masque, ne pas nous dissimuler dans ces occasions où nous sommes entourés des personnes qui ne sont pas de notre église, qui ne sont pas dans l'église, qui ne sont pas chrétiennes. Si nous nous réjouissons et pleurons avec des non-chrétiens, que ce soit l'expression d'un amour, d'une compassion authentique devant Dieu. Je me semble qu'on ne peut pas avoir des arrière-pensées que de dire « Ah ben voilà, je vais utiliser telle ou telle façon et hop, je vais... » Des fois, on aurait tendance à faire ça, à voir l'occasion, voilà, je vais donner un traité à ce moment-là. Bon, si la personne connaissait notre pensée, qu'est-ce qu'elle penserait de nous, hein? Est-ce que cette personne s'intéresse réellement à moi? Non, elle s'intéresse à sa religion, elle s'intéresse à peut-être se glorifier ou faire du chiffre auprès de ses supérieurs. Attention à être authentique, animé d'un amour sans hypocrisie. Il s'agit, il me semble, de s'exposer au monde en tant que chrétien qui incarnons l'évangile pleinement pour que les personnes puissent voir pleinement l'évangile à travers nos vies et nos attitudes, dans toute sa beauté et dans toute son authenticité. C'est un défi. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Verset 16. Vivez en plein accord les uns avec les autres et n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Et ne vous prenez pas pour des sages. C'était valable, bien sûr, dans les relations dans l'Église. Il y a un petit peu de biseau là, comme si l'apôtre, à un moment donné, dans traversé trois versets, parle à la fois à l'intérieur, ce qui concerne l'Église, et les relations à l'extérieur. L'humilité est importante dans nos relations fraternelles, mais aussi dans les relations avec les non-chrétiens. Paul donne un avertissement très sévère aux orgueilleux, quelques pages avant, Romains 11, 20. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais crains. Et ailleurs, visant les chrétiens de Corinthe, qui étaient un petit peu orgueilleux, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Leur pose-t-il comme question. Il y a de nombreuses barrières entre nos concitoyens et l'évangile, et il serait malvenu d'en ajouter une autre en nous présentant à eux comme des gens qui sont supérieurs, qui ont des connaissances supérieures, qui ont qui savent mieux qu'eux. C'est, je pense, pas travailler comme il faut. Et donc, on dit que l'humilité est le parfum de la sainteté. Et dans le monde, comme dans l'Église, l'humilité sincère est de mise. Demandons-la à Dieu. Humilions-nous sous sa puissante main, comme le recommande l'apôtre Pierre par ailleurs. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et là aussi, on se souvient de l'enseignement de Jésus en Matthieu chapitre 5, 38 à 42. Si tu peux nous le lire, Patrick.
5, 38 à 42.
C'est ça.
Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre joue, aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi.
Voilà, à la même ligne ici. Ne rendez pas le mal pour le mal. Cherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Rechercher ce qui est bien. Comment faire du bien aux non-chrétiens? Il faut prendre en considération ce qu'eux-mêmes considèrent comme étant bien. Nous devons discerner dans la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait, mais certainement cela passe aussi quand on est en relation avec nos prochains de ce qui est qui comprennent, qui est bon pour eux. J'ai des grandes luttes dans mon travail avec cette question de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de rechercher le bien. J'ai une personne dans mon travail, je ne sais pas si elle est jalouse ou on ne sait pas toujours, mais des fois, on a des grandes difficultés, on a des bâtons dans les roues tout le temps. Comment faire du bien à cette personne? Comment lui faire du bien? Je pense qu'il faut réfléchir comment le faire pour que ce soit clair pour tout le monde, pour que ce soit quelque chose qui soit approuvé par tous. Et cela demande du discernement et de la réflexion. Comment apporter vraiment ce que les personnes ont besoin, mais il va en reparler un petit peu plus loin, l'apôtre. Verset 18. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et on peut lire Matthieu chapitre 5, verset 9.
Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
On a développé ce sujet il y a quelque temps. Vous connaissez cette expression maintenant, c'est bien d'actualité. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Le monde applique ces maximes-là. Il y en a une autre qui est bien parlante aussi, qui vient de la bouche du président Roosevelt. Parler doucement et porter un gros bâton. Notre père de la victoire en 1918, Georges Clemenceau, il a été le vainqueur, le père de la victoire, on l'appelait le père de la victoire, mais quand il s'agit de faire la paix, cela a été plutôt un échec. Et il a avoué, après le traité de Versailles, il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et on veut bien le croire. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne donne pas comme le monde donne. Et puisque Dieu a fait la paix avec nous, nous devons aussi nous faire la paix avec nos prochains, mais une paix qui ressemble à celle que nous avons reçue, une paix gracieuse et sans contrepartie. Donc concernant la paix avec notre prochain. La balle, comme on dit, ne doit pas jamais être dans notre cas. Toutefois, si le conflit perdure, après tous nos efforts, restons nous-mêmes en paix. Les chrétiens sont ou devraient être des pacifiques, parce que nous-mêmes, nous avons été pacifiés par Dieu. Nous sommes en paix. Versets 19 et 20. Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Paul cite ici les Écritures de l'Ancien Testament. Ne vous vengez pas vous-même ou ne vous faites pas justice à vous-même. On a tendance à faire cela dans la crainte qu'on a que une faute qui nous a été commise ne soit pas punie en retour, que la personne s'en tire sans rien. Paul ne dit pas de ne pas nous défendre. Il dit de ne pas nous faire justice nous-mêmes. Laissez agir la colère ou donner la place à la colère de Dieu. Il faut admettre que nous sommes mal placés pour juger autrui, mal placés encore moins pour le punir. La Bible tout entière avertit que le jour de la colère de Dieu viendra. J'ai retenu pour nous Ésaïe 30, 27. Voici le nom de l'Éternel vient de loin, sa colère est ardente. C'est un violent incendie, ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Jésus lui-même a parlé largement de la réalité du feu de la géhenne à venir. Donc, ce n'est pas à nous d'exercer la colère, mais laissons la chose à Dieu en son temps. C'est lui qui rendra justice et c'est lui qui rétribuera chacun. L'ennemi n'est pas un copain. Dans le texte, il est odieux et il est haïssable. Quand que nous décidions de nous défendre devant la justice des hommes ou pas, nous avons le devoir de faire le bien à nos ennemis. Et ce n'est pas incompatible. Là encore, il s'agit de faire le bien qui sera compris comme étant le bien. Et on a deux exemples qui sont parlants ici. Donne-lui à manger s'il a faim, donne-lui pas soif s'il a boire, combler des besoins qu'il a concrets et qu'il comprend vraiment. Cet homme est en train de me faire du bien alors que moi, je lui cherche du mal. Comment comprendre cette expression « amasser des charbons ardents sur la tête de quelqu'un, sur la tête de son ennemi » Bon, peut-être on peut, la plupart le comprennent comme ça, en répondant au mal par le bien, notre ennemi va sentir que ça chauffe pour lui, hein, qu'il sentira de façon figurée l'odeur de la chaleur du juste jugement de Dieu qui l'attend s'il ne se repent pas, s'il ne change pas d'attitude et s'il ne plie pas le genou devant Dieu. Se repentir, être sauvé de la colère de Dieu. Voilà bien l'objectif que Dieu poursuit. Il ne veut pas que le méchant périsse, il veut qu'il se repente. Et nous pouvons contribuer à cela avec la bonté que nous avons envers lui. Une bonté et un amour authentique qui viennent de l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Quoi qu'il en soit, Dieu nous dit d'aimer nos ennemis et indique la façon concrète de le faire. Dernier verset de notre chapitre 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Il s'agit là bien, on le sent, d'un combat. C'est pas facile. Autant l'Église est un paradis douillet, du moins ça devrait être ainsi, un endroit où on est en sécurité, où l'on reçoit de l'amour et où on le donne et tout est super. Autant, en comparaison, le monde est un endroit plutôt hostile et dangereux pour le chrétien où l'on souffre et l'on reçoit des coups si facilement. Alors, si nous laissons l'amour de Dieu remplir entièrement de nos vies et nous attachons à aimer de façon authentique, comme le recommande l'apôtre au verset 9, l'Église sera pour nos frères et nos sœurs vraiment un petit paradis, un petit paradis. Concernant le monde, bien sûr, il s'agit pas d'être naïf. Le monde est dangereux, dur, impitoyable, mais il s'agit que d'être convaincu que nous devons avoir le mal en horreur et toujours nous attacher et nous coller au bien quand nous sommes dans cet environnement hostile. Nous ne sommes pas sans armes face au mal. Et notre arme, c'est écrit ici, c'est le bien. Notre arme, c'est la bénédiction. Notre arme, c'est l'intérêt sincère porté à chacun. Notre arme, c'est l'humilité. Notre arme, c'est la recherche de la paix. Notre arme, c'est répondre au mal en faisant le bien. Jésus nous demande d'être ses témoins dans un monde dangereux. Nous serons témoins si nous nous donnons à Jésus comme il s'est donné à nous. Nous serons ses témoins si ceux qui nous entourent sont spectateurs des changements et de la transformation que l'Esprit de Dieu produit en nous de façon continue. Nous le serons si ceux qui nous entourent voient notre persévérance dans les difficultés, dans les souffrances et dans les malheurs, notre joyeuse espérance, et également devine à travers, en nous voyant vivre, notre vie intérieure de prière. Que notre amour soit donc sans hypocrisie, ayant le mal en horreur, attachons-nous fortement au bien. Prions. Seigneur, tu nous mets devant tout cette liste de commandements, tous plus grands et plus, qui nous semblent plus grands et plus inaccessibles les uns que les autres. Mais si tu nous les as donnés, c'est qu'ils sont justement accessibles et que c'est là ta volonté bonne, agréable et parfaite pour nous. Merci de ce que nous pouvons en Église nous entraîner, nous exercer, nous réconforter, nous consoler les uns les autres, parce que la plupart du temps, nous sommes entourés de personnes qui ne te connaissent pas et c'est pas facile. Merci parce que tu nous établis comme des témoins et parce que tu nous as donné ton Esprit Saint pour que nous soyons des témoins et qu'à travers nous, les gens qui nous voient soient attirés vers Jésus. Merci de cette responsabilité, merci de nous aider à le faire de façon entièrement honnête, entièrement transparente, sans aucune espèce de mauvaise chose en nous, mais de le faire naturellement, avec grâce, avec bonté, rempli de l'amour que Dieu déverse dans nos cœurs par son Esprit. Merci Seigneur. Nous voulons prier pour tout ce qui nous dérange aujourd'hui, peut-être dans des situations que chacun de nous vivons personnellement. Nous voulons te prier pour eux. Nous voulons te prier pour telle et telle personne. Nous voulons te prier pour telle et telle situation, que tu te glorifies à travers elle. Et que nous puissions être vainqueurs et vaincre nous aussi, vaincre le mal par le bien. dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Donc je vous propose un dernier chant. Christ, nous précédant, marchons en avant.